Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau volet des émissions en extérieur, en direct et en live. Bah oui, c'est la belle saison, alors on profite des éclaircies pour aller installer nos studios dans là où se passe la vie ébrouissienne et même plus largement. Cela dit, aujourd'hui, on n'aura pas eu bien long à faire car nous avons installé notre studio chez nos voisins, comme tous les ans, au Home Nicolas. Le Home Nicolas, porté par l'association Marie-Hélène, propose aujourd'hui ses portes ouvertes. L'association Marie-Hélène porte tout un tas de structures. Nous aurons l'occasion de revenir dessus, qui a pour mission d'accompagner les jeunes, les enfants, les jeunes adultes en situation de handicap. Sur le Home Nicolas, ce sont les jeunes autistes que nous avons l'habitude de croiser et vous aurez l'occasion d'ailleurs de les écouter sur notre antenne car nous avons eu l'occasion de faire des reportages en amont. En tout cas, nous voici partis pour une heure et demie d'émission en direct, en live et en public des portes ouvertes du Home Nicolas où vous pouvez nous rejoindre, bien entendu. Voilà, l'habillage sonore a été créé, fabriqué avec les jeunes du Home Nicolas. Je vous le disais tout à l'heure, on a eu l'occasion de tourner au mois d'avril un reportage sur une séance de musique. Vous en aurez des extraits tout au long de ces missions. Pour cette émission, nous allons rencontrer du coup toutes les personnes peut-être pas, mais en tout cas toute une série de personnes qui font la vie de ce Home Nicolas et plus largement de l'association Marie-Hélène. Nous allons rencontrer notamment Madame Fontan, qui est la directrice. Nous parlerons CESAD, nous parlerons également du service éducatif, notamment avec Alain Digard. Nous parlerons également activités avec l'ensemble des intervenants. Je suis en train de voir, mon conducteur n'est même pas à jour, mais ce qui n'est pas bien grave, car de toute façon, durant l'heure et demie qui va arriver, nous allons parler et notamment de l'association Marie-Hélène, mais aussi du Home Nicolas. Tout de suite, sans plus attendre, car le thème de l'année est l'autisme et la musique, ou plutôt la musique et l'autisme, nous recevons les personnes qui font justement cet atelier musical, à savoir Sandrine, intervenante musique, Fabien, Pascal et Ingrid. Bonjour à vous, salut. Voilà, on se fait saluer, on est en public, hein, c'est la réalité de ce qui se passe sur place. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ma toute première question avant qu'on écoute quelques extraits tournés au mois d'avril avec les jeunes. Pourquoi, comment un atelier musical avec les jeunes, alors du Home Pascal et du Home Nicolas, si ma mémoire ne me fait pas défaut.
C'est ça. Ben, alors Ingrid. Ça a démarré il y a très très longtemps. La musique a été un grand centre d'intérêt pour nos jeunes enfants à l'époque du Home Pascal. Et puis ils ont grandi, ils sont arrivés au Home Nicolas et on s'est dit que ce serait dommage que ça s'arrête. C'est pour ça qu'on a continué à travailler avec le Home Pascal. Ils viennent nous voir tous les vendredis et on fait de la musique ensemble. Pourquoi la musique ? Bah parce que c'est un super médiateur pour essayer d'interagir avec nos résidents.
J'ai la sensation, pour avoir vécu une séance avec vous, que c'est un autre langage finalement, la musique, c'est une espèce de langage alternatif où parfois les jeunes n'arrivent pas à formuler une idée avec des mots. Finalement, à travers la musique, il y a un outil d'expression. Je ne sais pas vous le voyez.
Bah, c'est complètement ça. En fait, on ne parle pas, on n'a pas besoin de parler en musique. Et par contre, on est totalement en phase parce qu'on va être en rythme, où on va créer des choses ensemble. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, on ne se retrouve pas entre autistes et non-autistes, on se retrouve entre musiciens. Et ça, ça fait toute une différence. Et c'est ça qui crée le lien et qui fait monter la mayonnaise, quoi.
Ça leur permet de s'exprimer, justement.
Bien dans le micro, s'il vous plaît.
Ça leur permet de s'exprimer, justement, sans les paroles. Naturellement, ils produisent des sons, des vocalises, des choses comme ça. Et puis là, ils peuvent utiliser toute cette expression-là, justement, en musique. On part de ce qu'ils savent faire, on part de leur centre d'intérêt. Et puis de là, voilà, on évolue avec eux.
C'est vous qui êtes encadrant régulier avec ces jeunes.
Oui.
C'est un moment particulier, ces moments de musique, c'est des moments d'échanges justement non-verbaux, non-visuels, des échanges auditifs, j'imagine. Comment ça se passe pour vous qui les voyez dans d'autres situations?
On voit que c'est un grand plaisir déjà pour les jeunes d'arriver justement dans cette activité. Moi qui viens là ici avec mes jeunes, je suis du Homme Pascal, je les vois différemment, les jeunes. On voit, ils viennent ici, c'est le grand plaisir, grand bonheur, grand sourire, toujours avec gaieté. Et c'est ce qui nous motive justement à continuer cette activité.
Oui, Fabien.
Et voilà, et vice-versa par rapport à ce que disait Pascal. On voit des jeunes du Homme Pascal qu'on voit plus évidemment en atelier musique. Et ces jeunes, on les perçoit complètement différemment sur ce temps-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeunes qui sont pas toujours en forme, évidemment. Et on les retrouve sur le groupe musique avec un sourire, avec des prises d'initiative qu'ils ne faisaient pas avant. Et on voit une progression, sur des jeunes.
C'est retranscriptible en dehors de la musique, ces éléments qui avancent à travers cet outil qui est la musique? Est-ce que c'est des choses qui sont retranscriptibles ailleurs ou c'est déjà bien d'avoir du plaisir et de l'échange sur ces temps-là?
Je dirais les deux, en fait, parce que on a des jeunes qui poursuivent la musique même en dehors des temps. On les entend, beaucoup de jeunes chanter dans les homes. Donc c'est que la mayonnaise prend, quoi.
Puis ça les ouvre, en fait. Le chant, on chante beaucoup, on rit beaucoup. Donc forcément, l'ouverture qu'ils ont pris pendant cette heure-là, c'est obligé qu'ils la ramènent un petit peu chez eux, dans leur chambre, je ne sais pas, dans leur tête.
Je propose qu'on écoute tout de suite pour illustrer très concrètement comment ça se passe, ces ateliers, par une première captation. Et c'était la captation Stand By Me au piano à pouce, je crois, de mémoire. On écoute ça. Alors donc ça, c'était un extrait de
sitar.
C'était de la sitar. Hein. C'est le piano à pouce, c'est après, ouais, pardon. Mais oui, c'était de la sitar exactement, où il y avait un système de sitar avec une partition qui était glissée en dessous, donc il reproduisait une partition, ce qui n'est pas une mince affaire de reproduire une partition. Et on sentait, moi pour avoir vécu cette séance, les autres attentifs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on capte l'attention d'un groupe entier quand il y a un musicien.
Ah oui, ils s'écoutent, ils sont calmes, ils sont respectueux les uns des autres. Et ils attendent leur tour, en fait. Ils attendent leur tour avec impatience, donc ils sont plutôt sages en attendant leur tour.
Et puis on voit qu'ils choisissent les partitions. Quand vous leur proposez la sitar avec une partition, non, c'est pas celle-là, voulaient un tel. Enfin, ils vous guident et vous guidez aussi les choix. C'est-à-dire qu'il y a une réelle intention de jouer un morceau.
Ah oui, mais ils sont à fond, en fait. Moi, c'est ce que j'aime dans ces ateliers, c'est qu'ils sont à fond.
Papa,
ils sont à fond, les ballons. Ils ont envie de jouer, ils ont envie de chanter. Et il peut y avoir une personne ou une autre qui est parfois un peu fatiguée, qui est un petit peu absent de la séance, mais de façon générale, voilà, ils ont envie, quoi.
Et ils sont curieux de, bah, de toutes les nouveautés. C'est quand même un paradoxe parce que quand même les personnes avec autisme, ce qui est nouveau, ça fait peur et ça les angoisse. Et là, on peut leur apporter n'importe quoi comme voilà, les ouvrir vers des horizons différents et ils sont tout le temps partants. Quoi.
Jouer de la musique demande de s'écouter, de jouer ensemble. Très clairement, ça fait partie des choses plus difficiles à mettre en place avec de jeunes autistes, de jouer collectivement. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'image que j'en avais forcément de percevoir son voisin et de lui laisser toute la place qui doit laisser. Et là, avec la musique, qui est clairement un outil qui demande à s'écouter et à jouer ensemble. Voilà, comment ça se passe du coup pour réussir à jouer ensemble.
C'est hyper naturel. En fait, on n'a pas travaillé vraiment la synchronisation. Ils le font d'emblée. Franchement, il y a des choses qu'on a travaillées, plutôt l'expression de soi, mais la synchro, le fait de jouer ensemble, par exemple, quand on joue à plusieurs djembés ou plusieurs percussions, ça, ils font ça avec une fluidité parfaitement naturelle. On n'a pas travaillé là-dessus, on n'a pas eu besoin.
Après, on a travaillé plus sur des signes avec les mains pour expliquer quand il faut chanter, jouer plus fort, moins fort, ou il faut s'arrêter ensemble. Des signes visuels. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez instinctif.
Ce qu'on appelle le sound painting, non, c'est ça. C'est même. Il y a une discipline
rigolo ça, le sound painting. On devrait faire. Parce que ça, c'est complètement barge comme discipline.
Oui, complètement. Complètement.
Donc on pourrait bien s'amuser. Merci pour l'idée. Mais bon, non, en fait, on utilise des sons des signes très logiques, quoi, de moins fort, plus fort, stop, on s'arrête, là, tous ensemble, enfin, des petites choses visuelles pour synchroniser les débuts et les fins, mais de façon générale, naturellement, ils s'écoutent bien, oui.
Vous, Sandrine, vous êtes musicienne, vous êtes intervenante en tant que musicienne sur cet atelier-là. Oui. Les jeunes autistes, c'est un public relativement particulier. Comment ça s'appréhende et qu'est-ce que ça renvoie quand on est musicien, pas forcément préparé comme les éducateurs à rencontrer des publics particuliers?
Vous me parlez de l'atelier ou quand je joue pour ces jeunes?
J'ai envie de dire l'interaction entre la musique et puis ces jeunes autistes qui l'appréhendent différemment. Donc mener des ateliers et recevoir la musique, parce que j'imagine que la musique n'est pas reçue forcément de la même manière.
En fait, ils ont leur façon d'écouter. Et ça, il faut vite la prendre en compte, parce que sinon, on peut se méprendre sur des signes. Par exemple, un jeune qui va crier... En concert classique, on va mal le prendre. Pour un concert pour des autistes, on va bien le prendre. Parce que quand ils crient, c'est qu'ils sont contents. Donc voilà, il faut juste connaître leur code à eux. Et une fois qu'on les connaît, c'est plus facile. C'est vrai qu'au départ, ça peut être un peu déstabilisant. Je me souviens d'un concert il y a peut-être 2-3 ans ici où j'avais joué pour les jeunes. Et en fait, il y en avait un qui battait le rythme, mais... Évidemment, il n'était pas en même temps que moi. Il fallait quand même que je termine mon morceau. Et il battait avec ses mains de façon assez anarchique. C'était super dur. Donc, il fallait que je sois hyper concentrée, moi, sur mon morceau. Mais bon, j'étais contente parce qu'il était heureux. Voilà, il était juste devant mon nez. Évidemment, il était venu coller bien à la scène. Donc voilà, il y a des petites conditions comme ça qui peuvent être un petit peu... C'est une histoire d'habitude et puis aussi de les connaître. C'est-à-dire que plus on les connaît, plus c'est fluide et... Et on sait bien quelles vont être leurs réactions. Voilà, donc ça se fait bien.
Pour avoir échangé une époque avec Caillou, qui intervenait sur le Home Nicolas il y a plusieurs années maintenant, il nous avait dit que finalement, ça marquait différemment quand même d'intervenir auprès des jeunes autistes, parce qu'il y avait une espèce de... il n'y avait pas ce filtre un petit peu de social, de code, qui fait que c'est tout de suite, quoi.
Ouais, en fait, il n'y a pas de mental. C'est-à-dire qu'on oublie les mots, on oublie les codes sociaux, on oublie le mental, le petit truc qui tourne dans notre tête là tout le temps. Et donc, et en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien pour nous aussi. C'est une autre façon de communiquer, très instinctive. Et personnellement, j'adore ça, le côté très instinctif. C'est pour ça que j'aime travailler avec eux.
Sur ces ateliers musicaux, alors je me retourne plutôt vers les éducateurs, sur ces ateliers musicaux, vous avez enfin, culturel plus largement. Vous avez d'autres ateliers culturels comme l'expression graphique, j'en passe sûrement, hein,
la, mais, danse, la danse, l'expression, enfin, jeu scénique, enfin voilà, il y a plein de choses.
Oui, on avait eu l'occasion de les voir sur scène d'ailleurs lors d'un reportage il y a déjà un petit peu de temps sur la scène du cadran, je crois, sur de la danse. En tout cas, sur la musique, on voit bien les apports culturels, les apports d'expression artistique. La musique permet quoi plus particulièrement, vous, avec votre regard d'éducateur?
L'expression de...
Bien dans le micro, si, s'il vous plaît.
L'expression de sentiments qui sont propres aux personnes autistes, qu'ils racontent à leur façon, mais qui puissent l'exprimer. Et nous, on porte ça, je pense.
Moi, je pense que ce qui est plus facile avec la musique, c'est plus facile de faire des choses ensemble. Par exemple, quand on fait de l'art plastique, même si des fois on travaille sur des volumes ou des choses comme ça, où on est autour d'une même réalisation, ils sont quand même pas mal dans leur coin à faire les choses dans leur coin. En tout cas, en art plastique, pour moi, enfin, je mène l'activité, donc la musique, ça permet de faire des choses ensemble au niveau du partage, ainsi que la danse aussi. Par exemple, l'atelier danse aussi permet ce genre de choses qu'en art plastique, ils sont quand même pas mal un peu dans leur bulle.
Et puis, si je peux me permettre, en fait, ça crée un lien vers l'extérieur aussi. Enfin, bien sûr, les arts plastiques aussi, quand ils font des expos. Mais le fait de pouvoir partager, qu'on aille dans les écoles pour qu'ils montrent soit leur création musicale, soit des reprises, c'est un lien vers l'extérieur qui est super fort. Parce que les jeunes des écoles, ils vont se retrouver dans certaines chansons. Ils vont avoir des chansons en commun. Donc ça, c'est un super
bon
lien.
Et oui, un bon moment de partage à chaque fois.
Je ne pouvais pas terminer cet échange sans vous parler de quelque chose, nous, qui nous avait marqué à la radio. C'était le Kundvivi Orchestra. Donc voilà, je demande des nouvelles. Qu'en est-il du Kundvivi qui jouait jusqu'à il y a encore peu de temps? Donc ça joue encore? Comment ça se passe?
On a joué la semaine dernière à Dieppe, au Festival L'Âme de Fond. Et on joue tout à l'heure, à 17h. Voilà, Sandrine nous a accompagnés vers beaucoup de chants africains. On a travaillé beaucoup la voix cette année. Voilà, c'était. Vous verrez ça tout à l'heure à 17h.
Ils ont fait leur première compo cette année. Pour moi, c'est important.
Ça, c'est... Ah bah oui, non, mais ça, c'est loin d'être rien.
Oui, c'est bien.
Alors, comment on organise une compo? Parce que je sais que sur la maîtrise d'instruments, le solfège n'est pas forcément maîtrisé. Il y a une bonne oreille pour certains, mais pas forcément une maîtrise, entre guillemets, technique de la musique. Du coup, comment on fait une compo?
Déjà, il nous fallait les mots. On a commencé par les mots sur la chanson. On a fait une chanson sur le Home Nicolas, en fait. Et sur eux, on voulait faire une chanson sur eux, donc on a fait un brainstorming, on leur a demandé de nous donner plein de mots qui devaient les définir. Et donc on a mis tous les mots sur un tableau, ensuite on a réussi à faire des phrases, et puis ça a donné, déjà la trame de la chanson, et après on leur a proposé, je crois, un petit thème de blues, et puis on a interagi jusqu'à ce qu'on ait une trame à peu près propre. Et voilà, ils ont créé leur première chanson.
Voilà, on l'a mise en image. Donc, puisqu'on essaye le plus possible de mettre des images sur les mots qu'on emploie, ça les aide beaucoup. Voilà, on l'a mise en image. Ça s'est fait simplement, je trouve.
Oui, il faut le refaire maintenant.
Ça coule de source.
Très bien, merci beaucoup à vous, Sandrine, vous êtes intervenante musicale, Pascal, Fabien et Ingrid, qui est éducateur sur les Home Nicolas et Home Pascal. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous propose que nous écoutions justement une chanson, notre pause musicale, réalisée par ces jeunes, Olélé, exactement, Monsieur Pignon me le souffle à l'oreille, Olélé. Et il y avait notamment dans ce groupe, alors j'en oublie sûrement certains, mais je crois qu'on n'était pas trop mal. Il y avait Arnaud, Benjamin, Ethan, Mamadou, Ewen, Pierre, François, Thibault, j'en oublie Ingrid.
Valentin,
bah oui, Valentin que j'oublie, bah quand même.
Clémence.
Valentin, Clémence, très bien.
Et Benjamin, on l'a dit, Benjamin.
Benjamin, on l'a dit.
T'inquiète pas.
Bien entendu. Voilà, leur interprétation de Olélé. Oh! les contes du Baobab, ça c'est la version originale, reprise par les jeunes Duhaume, Nicolas et Duhaume Pascal lors de leurs ateliers du vendredi.
Boum. Bou, 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 bou.
Et voilà, jolie virgule également réalisée par les jeunes de Céaume, Nicolas et Pascal. Tout de suite, le temps de nous mettre en piste. Les nouveaux invités viennent d'arriver autour de nous. Je vous propose que nous écoutions une captation des jeunes. On les avait interrogés, interviewés lors de cet atelier musical. Je vous propose qu'on écoute un court extrait. Bonjour
oui.
Valentin.
Bonjour Gisèle.
Quel âge as-tu Valentin?
22 ans.
22 ans. Alors toi aussi tu as fait de la musique aujourd'hui.
La musique?
Le vendredi après-midi c'est la musique.
La musique.
Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?
Le ukulélé et l'issida, le jazz musical.
Est-ce que toi, Valentin, tu as un instrument préféré?
Balafon.
Le balafon. Tu aimes bien le balafon?
Oui.
Est-ce que tu en as déjà joué du balafon?
Oui.
Oui.
Et les didgeridoo.
Et le didgeridoo. Ouais. Ça, t'aimes bien le didgeridoo?
Oui.
Est-ce que tu en joues du didgeridoo?
Oui.
Oui, tu as déjà joué du didgeridoo?
Le didgeridoo.
C'est avec les mêmes copains que tu fais de la musique toutes les semaines?
Oui, de la musique toutes les semaines.
Et qui c'est qui vient pour faire de la musique avec vous? Qui c'est qui vient pour faire de la musique avec vous?
Avec Sandrine.
Avec Sandrine. Et elle joue de quoi, Sandrine?
De la harpe.
C'est joli, la harpe.
Oui.
Tu as joué de quoi aujourd'hui, Benjamin?
Oui, oui.
Tu as joué de quoi? Est-ce que tu as joué des instruments?
Oui.
Lesquels?
Guitare.
La guitare. Bonjour Thibaut.
Bonjour Tim. Bonjour.
Moi c'est JC.
Bonjour JC.
Voilà. Aujourd'hui on a fait de la musique. Enfin, tu as fait de la musique.
ICO.
ICO. Et toi tu chantes
Santiano. Santiano.
Tu la connais bien cette chanson?
Santiano.
Ouais.
Gui Gui. Le Boba Magique.
Ah, le Boba Magique aussi. Ça c'est le conte. C'est ça. C'est l'histoire, le Boba Magique. Voilà, c'était extrait de nos échanges du mois d'avril sur l'atelier musique du vendredi, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Voilà, nous poursuivons cette émission et nous allons parler plus précisément de l'unité éducative maternelle. Non, vous allez me reprendre, voilà, Madame Fontan va déjà me reprendre.
L'unité d'enseignement maternel.
L'unité d'enseignement maternel. Donc, nous avons autour de la table, pour parler de cette unité d'enseignement maternel, donc Caroline Fontan, directrice du Home Pascal et Home Nicolas, qui vient juste de rectifier le tir, vous faites bien. Laurence Kahn, psychologue. Leïla Mabir, éducatrice spécialisée. Et Peggy Lys, enseignante. Bonjour à vous toutes les quatre. Ma toute première question, quelle est donc cette unité? Comment elle fonctionne? Quel est son objectif? Ça fait beaucoup de questions d'un seul coup, mais c'est globalement, quelle est un peu la philosophie de cette unité?
Alors l'unité d'enseignement maternel, c'est une classe spécifique pour 7 enfants avec autisme. Ça s'inscrit dans la déclinaison du plan national autisme 2013-2017. Il y en a une de créée par région, puis une par département. Donc celle d'Évreux a ouvert en septembre donc 2015, donc dernière rentrée scolaire, et c'est un partenariat entre l'Agence régionale de santé, l'éducation nationale, le centre de ressources pour l'autisme de Haute-Normandie, l'association Marie-Hélène qui porte effectivement ce projet d'ouverture. Voilà, donc c'est toutes les classes d'enseignement maternel, c'est 7 enfants. Pas plus, pas moins. C'est 3 années de scolarisation maximum, petite, moyenne, grande section. Hein. Donc on est vraiment dans la prise en charge précoce pour faire en sorte de tenter effectivement de travailler tout ce qui est communication, interaction sociale et autres dont parleront mes collègues plus précisément que moi, pour que à terme l'enfant puisse être scolarisé en milieu ordinaire.
Ces classes de maternelle, par rapport à la particularité d'enfants autistes, est-ce qu'elles sont sur les mêmes tranches d'âge, les 3-6 ans, comme on a dans le système scolaire classique? Est-ce qu'il y a des aménagements sur ces tranches d'âge ou pas?
La classe fonctionne comme une classe ordinaire. On est là du lundi au vendredi. Les enfants seront là de 3 ans à 6 ans. Ils peuvent quitter le lieu avant. S'ils ont une possibilité, ils retournent sur leur école de secteur. Cette année, on a deux enfants.
L'école
ordinaire du quartier de la famille. Donc là, on a deux enfants qui sortent du lieu cette année. Et donc, on accueillera deux nouveaux enfants pour rester à 7. Mais on fonctionne comme une classe ordinaire, avec un emploi du temps de classe de petite section. On travaille tous les jours, les enfants mangent à la cantine, participent au temps d'activités périscolaires. Voilà. Donc ils font leurs 24 heures de prise en charge scolaire, plus les temps extra. Hein.
Alors vous dites ils font leur classe comme les autres. C'est quand même une classe particulière, justement. Au niveau de l'encadrement, quelles sont les particularités, quelles sont les attentions qui sont portées sur l'encadrement? Alors j'imagine que, notamment, Laurence Kahn, psychologue, et puis Leïla Mabir, EduxPé, peuvent faire partie de cet encadrement spécifique, j'imagine, non?
Tout à fait. Déjà, on a une enseignante spécialisée qui est en lien avec tout le médico-social et avec nous, professionnels du médico-social.
Alors, c'est quoi une enseignante spécialisée? Je me permets de revenir. On part du niveau zéro, nous, hein, vous savez.
Enseignante spécialisée, c'est une enseignante qui a passé une formation qu'on appelle NUCAPA-SH, option D, pour le coup, pour travailler avec l'autisme. C'est cette option qui est exigée dans le cahier des charges. Donc, qui est spécialisée, qui travaille avec les personnes porteurs de handicap.
Voilà, donc un complément à la formation initiale d'enseignant.
Une éducatrice spécialisée, donc Leïla, une éducatrice jeunes enfants, deux AMP et moi à
AMP,
aide médico-psychologique.
Et
une psychomotricienne également qui a temps malheureusement très partiel.
C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes sur les temps de classe, non? Ça veut dire que c'est une petite classe avec sept enfants et puis il y a pas mal d'encadrants quand même.
On est presque en un pour un.
Ouais, c'est
voilà,
ce que j'allais.
Quasiment. On est, on aimerait bien y être tout le temps, mais on n'y est pas. On est en 5 personnes pour 7 enfants à plein temps. Ça tombe un petit peu sur le temps du midi, avec les temps de pause des unes et des autres, où on a un peu moins d'accompagnants, mais on est quasiment un pour un. Le mercredi matin, par exemple, on a une personne pour un enfant. Ce qui permet de pouvoir faire ce que le cahier des charges demande, une approche intensive et précoce, parce que c'est ce qui fait vraiment évoluer les enfants.
Alors, dans cette prise en charge précoce, moi, ça m'amène à l'idée qu'il faut aussi que l'autisme de l'enfant soit repéré de manière très tôt, non? Et c'est pas toujours évident de détecter un autisme chez les enfants relativement jeunes.
Alors
comment ça se passe, du coup? Parce que j'imagine que c'est fortement en lien, hein, le fait d'avoir repéré l'enfant comme étant un jeune autiste et de pouvoir lui faire intégrer un circuit particulier.
D'autant qu'on souhaite les accueillir, nous, à l'âge de 3 ans, pour qu'ils puissent avoir 3 années de scolarité. C'est effectivement pas quelque chose de simple. Après, on sait qu'aujourd'hui, entre 18 mois et 2 ans, on peut commencer à poser des diagnostics assez fiables pour les enfants. Encore faut-il qu'ils soient repérés et que les parents les emmènent vers des médecins et que les médecins les emmènent vers des médecins encore plus spécialisés pour vraiment poser ce diagnostic d'autisme. C'est tout le travail de partenariat aussi qui peut se faire avec le centre de ressources pour l'autisme dans ce travail-là. Mais on est vraiment dans cette idée que plus tôt on va pouvoir les dépister, ces enfants-là, plus tôt on va pouvoir leur proposer des choses et plus on va modifier leur trajectoire de vie.
Madame Fontan, vous évoquiez au début que c'était une classe de 7, pas plus et pas moins, vous disiez. Pourquoi est-ce que c'est quand même cette notion de collectif qui est importante à travailler, j'imagine, sur ces classes? Ou je renvoyais vers vous parce que c'est vous qui disiez pas plus, pas moins, mais quelqu'un d'autre peut s'emparer de la réponse.
Pas plus, pas moins, il a été défini que 7 enfants par unité d'enseignement maternel, c'était effectivement quelque chose qui était pertinent. De part aussi, en fait, c'est un petit peu compliqué, mais il y a aussi un budget global qui est fixé, hein, par arrêté, et qui est le même pour chaque unité d'enseignement. Donc avec ce budget, au-delà des charges de fonctionnement et autres, il y a effectivement les salaires des professionnels, et ce qui génère un taux d'encadrement qui doit être à minima de 0,7 personnes par enfant.
D'accord.
Donc
c'est
voilà,
précis, c'est
eh oui, à minima. Donc voilà, oui, c'est vraiment très encadré. Hein. Donc après, il y a des choix institutionnels ou associatifs qui se font par rapport à des fonctions, par rapport à un nombre de professionnels maximum, je dirais. Mais nous, on a effectivement accentué par rapport à l'accompagnement éducatif en préconisant qu'il était nécessaire d'avoir deux professionnels éducatrices, donc ES, EJE. C'était aussi
EJE, du coup.
Éducatrice de jeunes enfants, hein, de par l'âge aussi des enfants. Donc voilà, avec une approche et une perception et une qualification et des compétences autres que la formation d'éducateur spécialisé, mais qui est vraiment complémentaire, hein, dans la vision, les observations, etc. Et de pouvoir avoir deux professionnels AMP, parce qu'il n'y a pas que la dimension effectivement pédagogique de l'accompagnement, hein, on est bien en classe, mais il y a aussi tout ce qui est développer l'autonomie, hein. Ce sont des enfants, de par leur spécificité d'enfants avec autisme, qui ont des troubles alimentaires, qui ne sont pas, pour beaucoup, qui ne sont pas propres quand ils arrivent à l'école. Voilà, il y a toute cette apprentissage effectivement qui est tout aussi important que tout ce qui va être apprentissage préscolaire et scolaire. Donc il y a besoin vraiment d'une équipe d'encadrement, et on voit bien l'évolution en cette fin d'année scolaire par rapport à des enfants entre septembre et là fin juin qui ont beaucoup progressé, chacun à son rythme. Mais voilà, tout à l'heure mes collègues parlaient de deux enfants qui sortent, certes, mais aussi parmi les autres enfants, il y en a qui ont acquis davantage de langage, qui ont un langage, une communication plus fonctionnelle, alors qu'avant c'était plus des mots de l'écolalie, des mots isolés, etc. On est vraiment très axé sur tout ce qui est communication, hein. C'est vraiment important, le langage. On soutient par le visuel, on travaille avec les pictos, avec les photos, avec les plannings visuels, avec l'adaptation, voilà, des outils, et ça fonctionne, quoi. N'est-ce pas, mesdames?
C'est l'unité d'enseignement maternel. Est-ce que c'est une unité qui est au sein d'une école ordinaire, ou est-ce que c'est dans des lieux particuliers, et quelles en sont les raisons? Oh non, je fais que des questions à tiroir, hein. Vous saisissez du tiroir que voilà, vous souhaitez.
Voilà. Donc oui, c'est une classe qui fait partie de l'école. Après, qui fait aussi partie, c'est toi, du tout ce qui est projet d'école. Et,
lieu est arrivé cette année dans une école qui était en pleine construction de son projet d'école. Et c'est vrai que du coup, elle s'inscrit comme une classe. Nous sommes une septième classe de l'école. La directrice de l'école, d'ailleurs, a une des charges, sept classes maintenant au lieu de six. Donc du coup, on participe au même titre que les autres classes à tous les projets. Il y a eu un projet danse, par exemple, cette année. Les enfants ont pu participer. Ceux qui étaient inclus dans les autres classes ont pu participer au projet. On a participé à la fête de carnaval de l'école. Dès qu'il y a les sorties scolaires, on accompagne. Alors après, on essaye de le faire en fonction de l'âge des enfants aussi. On ne va pas forcément mettre les petits avec les grands, mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Mais voilà, ils vivent au sein de l'école. Il y a un espace classe qui a été vraiment libéré pour l'UE, hein, que la mairie d'Évreux du coup a mis à disposition, puisqu'il y a un contrat de mise à disposition des locaux avec la mairie d'Évreux.
J'imagine que du coup ça a du sens d'être dans une classe, enfin dans une école ordinaire, et que ça facilite sûrement les passerelles et les sorties
les inclusions,
de cette unité.
Par exemple, ouais, parce que l'objectif c'est quand même ça, de les inclure dans le milieu ordinaire au bout des 3 ans, mais on n'attend pas 3 ans pour le faire, on est dans une école, on en profite, et donc on inclut les enfants dans les classes dès qu'on sent une possibilité d'inclusion.
J'imagine que pour le milieu ordinaire aussi, ça doit être un plus finalement de pouvoir être dans l'école avec des jeunes
et tout petit.
De l'unité, puis des jeunes différents.
Et tout petit, les enfants s'habituent au handicap. Hein, avant, c'était peut-être plutôt extraordinaire. Maintenant, ça devient banal. Et finalement, c'est plus l'enfant au fond de la classe qui crie, mais voilà, c'est l'enfant de l'UE qui vient nous rendre visite et qui vient travailler avec nous.
Ce qui est plutôt plus valorisant, j'imagine, et c'est important également de le regard de l'autre.
Bien sûr, il y a moins de stigmatisation.
Pour ces enfants. Combien d'unités aujourd'hui sur Évreux? Et
une
plus
seule.
Largement sur le département, parce que je vois 7 enfants, alors c'est très bien, mais...
Une seule par département.
Une seule unité d'enseignement sur le département de l'Eure. En fait, la première au niveau Normandie a ouvert à Rouen. La seconde, c'est donc Évreux. Et il y en a une troisième qui ouvre, mais qui n'était pas prévue initialement, mais de par la demande et le besoin, sur le Havre, normalement en septembre là, 2016.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, de nous avoir expliqué, de nous avoir donné un peu plus d'informations sur ces unités d'enseignement maternel. Nous étions avec Laurence Kahn, psychologue, Leïla Mabir, éducatrice spécialisée, Peggy Lys, enseignante, et Caroline Fontan, directrice des Home Pascal et Home Nicolas. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Je vous propose, Monsieur Pignon, que nous écoutions un extrait de ce que nous avons tourné dans les ateliers le mois d'avril sur l'atelier musique du Home Nicolas et Home Pascal. Je vous propose la captation numéro 2, si vous le voulez bien.
Messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Mes amis, est-ce qu'on peut y aller?
Bien sûr.
Ok, d'accord.
Bien sûr.
Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec et souhaitent ma misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Yaoundé, j'ai trop chez toi, de retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Mama. Hey, yeah, yeah.
sugiye dem ni ishuma kunke ya jama ya jama ya jama ha. Doru ni tusu daraba, darabalet, eh darabalet, darabalet, eh darabalet, aha.
Jaloux saboteurs que nous pouvons retrouver sur cette double compile de l'Afrique enchantée réalisée par bien entendu Soro et Vlad de la fameuse émission L'Afrique enchantée. Nous sommes toujours en direct, en live, en public, Guillaume, Nicolas, à l'occasion des portes ouvertes. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs, les portes sont ouvertes, donc c'est l'occasion de venir découvrir les réalisations des jeunes, les œuvres réalisées durant l'année, de s'informer aussi sur le fonctionnement de ces structures. J'ai perdu le fil, nous poursuivons. Alors, j'allais dire oui, vous pouvez aussi venir faire du château gonflable, on a un château gonflable juste en face. Damien, attendez tout de même que l'émission soit finie afin d'escalader cette paroi de la Jungle Run. S'il vous plaît, restez avec nous, Damien. Nous recevons maintenant autour des micros Olivier Dubois, chef de service éducatif du Home Nicolas. Nous recevons également Alain Digard, chef de service éducatif également du Home Pascal, et Walter Séné, intervenant graphique. Comment on dit d'ailleurs, intervenant graphique,
intervenant art plastique,
voilà, ouais. Art plastique auprès des jeunes autistes.
Auprès des jeunes autistes du Home Pascal.
Alors justement, le Home Pascal, c'est donc un home qui reçoit les jeunes autistes, alors eux relativement jeunes, à partir de 6 ans.
À partir même de 3 ans.
Même en fait, à partir de 3 ans. Mm-hmm. Et puis le Home Nicolas qui reçoit les jeunes adultes, j'imagine qu'il y a un lien entre le Home Pascal et le Home Nicolas. J'imagine que des jeunes passant par le Home Pascal peuvent poursuivre un parcours au Home Nicolas et c'est une cohérence de projet, j'imagine.
Effectivement, ça s'est développé dans ce sens, qu'il n'y ait pas de rupture de parcours. Nombreux des enfants qui sont présents actuellement au Home Nicolas sont passés par l'IME Home Pascal.
14 sur 15, oui. Donc,
c'est nombreux. Ouais,
c'est une bonne stat, oui. Il y a un continuum évident qui était là sur la volonté de l'association de pouvoir continuer à accompagner ces enfants tout au long de leur vie. Et donc d'offrir aujourd'hui un accueil pour adultes, un accueil adapté à leur spécificité autistique, et de pouvoir continuer cet effort auprès des familles et autour de ces jeunes jusqu'à tout le long de leur vie.
Sur l'accueil et sur l'échange qu'il y a, j'imagine que vous échangez régulièrement. Enfin bon, alors c'est vrai que les deux Home Pascal et Home Nicolas font partie de la même association, l'association Marie-Hélène. Concrètement, comment fonctionne le Home? Je sais que j'ai assisté moi notamment à l'activité musique où les jeunes du Home Pascal viennent rejoindre ceux du Home Nicolas. Comment se passent les passerelles et comment elles fonctionnent et pourquoi? Pareil, toujours tiroir à question. Question à tiroir.
Les passerelles ne sont pas si nombreuses que ça, elles sont surtout d'ordre pratique et circonstanciel. Effectivement, on a des activités communes, on a du matériel en commun, on a des pratiques communes parce qu'on a des autistes et donc on se les échange, on se les refile. Mais après, la durée d'accueil n'est pas du tout la même entre l'IME où le jeune arrive et on sait qu'il repart à un moment, où une masse, les personnes arrivent et elles sont sont, elles vont être chez elles. On n'a pas que des personnes en internat, mais elles vont être chez elles et elles vont y rester des années, voire des dizaines d'années.
Après, là, nos adolescents aujourd'hui et les jeunes adultes du Haut Nicolas se connaissent. C'est l'occasion aussi de se rencontrer lors d'anniversaires, de fêtes, de rencontres musicales comme on va faire cet été. Voilà, autour d'événements, en tout cas, il y a des ponts qui peuvent se faire.
Et c'est des liens qui se créent, bien entendu. Vous évoquiez il y a quelques secondes cette notion de méthode, d'intervention, de pédagogie. Alors, je ne sais pas si vous utilisez d'autres termes, mais en tout cas, c'est ceux qui me viennent moi de pédagogie et de méthode. Il y a clairement des échanges. Enfin, les jeunes, j'imagine, qui sortent du Home Pascal, s'ils arrivent au Home Nicolas, ont besoin de retrouver des marques. Et j'imagine qu'au Home Nicolas, on doit sûrement aussi avoir des pédagogies qui peuvent profiter au Home Pascal. Ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il y a au bout d'un moment une ligne éditoriale, ça c'est nous en radio, mais une pédagogie de l'association Marie-Hélène plus largement qui est développée d'une façon et de l'autre sur le Home Pascal et le Home Nicolas.
Au niveau de l'IME, on essaie de développer de toute façon leur capacité de communication. Il est bien évident que dans tout leur parcours, il est important qu'il y ait cette continuité-là, qu'on ne change pas le langage et les méthodes appliquées. La psychologue aussi commune aux deux établissements permet ce lien et cette continuité-là. Et bien évidemment qu'à la moindre occasion, les échanges sont importants, justement.
Il y a un continuum, évident, puisque, comme on vient de le dire, la plupart d'entre eux viennent du Home Pascal, donc il y a un continuum de méthodes, il y a un continuum de professionnels, puisque certains des professionnels qui ont créé le Home Nicolas venaient du Home Pascal. Donc ils se retrouvent dans des repères humains, dans des lieux qu'ils connaissaient, qu'ils ont appris à apprivoiser alors qu'ils étaient encore au Home Pascal. Il y a un continuum, et puis on s'adresse aussi à des particularités sensorielles, et on essaye avec les mêmes stratégies, les mêmes outils de prendre soin de leur hyposensibilité ou de leur hypersensibilité. Donc on est sur des pratiques en continu, en s'adaptant à un âge, à des nécessités qui ne sont pas forcément les mêmes, à des enjeux qui ne sont pas forcément les mêmes. On a aussi la volonté de continuer à être dans des apprentissages, même si on s'occupe d'adultes. Il pourrait être facile de dire qu'on va préserver les acquis. Moi, c'est un mot que j'ai pas envie d'entendre dans notre façon de nous représenter, dans la façon dont l'équipe discute de son travail. Non, on va pas préserver les acquis construits au Pascal. On va essayer d'en développer d'autres, développer le maximum de compétences pour chacun des adultes accueillis ici.
On a une section, justement, les adolescents, en tout cas au sein de l'IME, où on travaille justement le maximum sur l'extérieur et où cette continuité-là est faite, bien évidemment, au Home Nicolas.
Vous parlez d'apprentissage. Alors, il y a tous les apprentissages, j'ai envie de dire, cadrés, formels, mais il y a aussi, et notamment à travers les activités, j'ai vécu moi l'activité musique, Walter qui est avec nous encadre l'activité art plastique, il y a des apprentissages... J'aurais presque envie de dire détourné, enfin, en tout cas des apprentissages à travers l'activité également. C'est quelque chose d'important, j'imagine aussi, de pouvoir au bout d'un moment passer par de l'apprentissage que j'appellerais détourné, mais il n'est peut-être pas détourné pour vous. Hein.
Pour moi, il n'est pas du tout détourné. C'est un apprentissage, c'est une volonté d'apporter des outils à travers du plaisir, à travers une réalisation finie, à travers un objectif aussi, un morceau de musique, un spectacle à préparer. C'est aussi la capacité d'apprendre toute une multitude de choses qui va se reproduire dans la vie courante, dans la relation à l'autre, dans la relation à soi, dans les capacités d'autonomie. C'est une mise en pratique, comme on le vit tous, nous, quand on travaille ou quand on s'engage dans telle ou telle activité. On met en pratique tout ce qu'on nous apprend. Là, nous, effectivement, c'est une mise en pratique et c'est un développement continu. Un développement continu et compétences.
Ouais. Oui, il y a tout un travail d'intégration sociale par tous les partenariats extérieurs qu'on peut mettre en place, que ce soit avec la MED, on est en ville et c'est une chance aussi de travailler ça, c'était une volonté aussi de bien sûr le travailler comme ça, et bien évidemment, par toutes ces rencontres, on travaille à plein de niveaux.
Alors Walter, justement, vous animez cet atelier art plastique au Pascal. J'imagine que la particularité du public amène à percevoir les choses différemment, ou je me trompe? Dans la façon dont eux perçoivent l'art plastique et dans la façon dont vous apportez un atelier plastique.
Le perçoivent, je sais pas trop. Moi, je le ramène de la même manière que si je l'amenais à d'autres enfants ou d'autres adultes. Ce qui m'intéresse dans ce travail-là, notamment avec eux, c'est surtout la communication, l'échange qu'on peut avoir ensemble, qu'ils peuvent avoir entre eux aussi. Donc c'est tout un travail dans le temps. On développe une certaine forme de... notamment là, c'est de la construction. Et ensuite, on adapte aussi par rapport à ce qu'ils peuvent faire, à ce qu'ils aiment faire aussi, les choses qui les rendent le plus sensibles. Donc on travaille vraiment là-dessus.
Alain Digard, vous qui êtes donc chef de service sur le home, service éducatif sur le home Pascal, vous travaillez donc avec Walter, j'imagine, en dehors des temps d'animation à proprement parler. Comment ça se passe, l'interaction entre l'intervenant artistique et puis le chef de service?
Le chef de service.
J'ai dit directeur de service, c'est ça?
Non. Et les éducatrices. Et
oui, également.
Sont tout à fait investies. En fait, c'est un appel à projet qu'on a répondu une première année où on a été...
On a été boulé dessus, quoi.
Voilà, on va dire ça. On va dire ça comme ça, mais c'est passé donc la deuxième année et puis c'est reconduit pour l'année prochaine exactement. C'était une volonté justement de travailler cette communication, l'expression artistique et qui puisse être valorisée aussi par l'exposition, les choses, échanger le regard des autres par rapport à ce qu'ils pouvaient produire. Et c'est vrai qu'en amont, on a essayé de constituer un groupe cohérent comme on l'imaginait, et en fait, en testant des choses, et on a été bien surpris des capacités de ce qu'ils pouvaient réellement produire, chacun avec des compétences différentes.
Très différentes, oui, bien sûr.
Et complémentaires, au final. Ouais.
Puisqu'au final, là, on a travaillé de deux manières. On a une première partie de l'année où ils ont plus bossé des pièces individuelles. Et la deuxième partie du travail a été de travailler sur une pièce collective. Donc, boulot individuel, même sur la pièce collective au départ, mais à un moment donné, on va tout assembler. Et ils sont là aussi pour assembler, pour après retravailler sur les assemblages. Donc, ils sont obligés de s'accepter les uns les autres et d'accepter que quelqu'un vienne travailler sur son petit morceau de création.
Et ça, oui, ça permet de travailler l'interaction, j'imagine,
l'interaction
entre les jeunes,
qui est
bien entendu.
Souvent déficitaire, bien évidemment, et donc c'est un axe majeur à travailler.
Ça, c'est clairement identifié en début d'année, enfin en début de projet, entre les encadrants, j'imagine, parce que bon, on voit bien la partie réalisation et puis la menée d'atelier, mais il y a tout ce qui se passe en amont et ou derrière le décor.
Dans la construction du projet de l'enfant, en fait, on identifie effectivement des axes qui sont à travailler et ensuite des médiations possibles à utiliser. C'en était une qui s'avère performante.
Tout à l'heure, avec l'atelier musique, on parlait d'expression. Tout à l'heure avec l'atelier musique, on parlait d'expression qui n'était pas avec des mots, qui parfois pose des difficultés, mais qui était une autre forme d'expression. J'imagine qu'à travers l'art plastique, on est complètement aussi dans l'expression.
Oui, complètement. Oui. Quelque part, presque peu importe l'outil, ce qui est vraiment intéressant, c'est comment ils prennent eux partie de ce qu'on peut leur montrer, leur offrir, et comment ils se l'approprient. Et là, à partir de ce moment-là, eux, ils communiquent aussi avec nous par tout ça. Que ça soit sur le résultat, que pendant la construction aussi, c'est super important.
Et je voulais rajouter, il y a le regard des autres, le regard du public quand on expose, mais le regard des parents aussi qui voient pour la première fois leur enfant autiste, qui crée, qui expose. Bon, voilà.
C'est très valorisant aussi, cette notion de valoriser ces jeunes, c'est important, j'imagine, et aussi bien pour eux que pour l'entourage, parce que bien souvent la question de l'autisme, c'est aussi la question de la famille d'un enfant autiste, et j'imagine que ça peut pas faire de mal pour un jeune, pour un enfant, de bénéficier de cette valorisation, j'imagine. Elle est peut-être même moteur parfois d'avancer, non, je sais pas comment c'est perçu. Forcément, ces valorisations.
forcément que c'est perçu positivement. Hein. Après, ça doit être pris, mais c'est justement, ça permet d'ouvrir la porte à il y a d'autres capacités, des choses à travailler. Ça fait avancer tout le monde.
Sur justement du coup le Home Pascal, le Home Nicolas, le suivi des publics, les actions qui viennent, les actions. J'ai envie de dire d'apprentissage. Je disais apprentissage détourné. Olivier, vous m'avez dit non, c'est pas détourné, c'est complètement direct, mais peut-être moins formel. J'ai la sensation moi, qu'il y a plus ludique en tout cas. Voilà. Mmh. Si c'est pas moins formel, c'est en tout cas plus ludique. Il y en a d'autres dans les Home Nicolas. Là, on vient de parler, on a évoqué tout à l'heure qu'il y a eu des ateliers danse sur le Home Nicolas. Je sais pas s'ils existent encore, ces ateliers.
Oui, sur l'expression corporelle, c'est souvent la danse. Oui, parce que on parlait de la musique. Essentiellement en début d'émission, on a six activités différentes autour de la musique, donc l'expression corporelle avec la danse, de l'éveil à la musique, de la sensorialité musicale. Enfin, il y a déjà tout un panel autour, rien qu'autour de cet axe-là. Et après, on développe effectivement beaucoup d'activités tout au long de la journée qui vont être avec une volonté de plaisir partagé sur les groupes et sur les individus qui les pratiquent. Alors, on a un axe de cuisine aussi. Là, on prend quand même beaucoup de plaisir à la faire et à la goûter.
Ça fonctionne toujours la cuisine. Hein. Là, pour le coup, aussi bien dans le milieu ordinaire, peu importe. Hein. Ça, la cuisine, c'est un truc qui marche.
Ça marche, oui, ça marche bien. Encore qu'on en a certains qui préfèrent nettement manger plutôt que la faire. Ça c'est une activité qu'on va développer tout au long de la semaine, relativement carrée quand même, parce qu'on va pas manger n'importe quoi non plus au final. Mais on a aussi effectivement des activités d'art plastique nous aussi. Un atelier qui avec beaucoup de production en peinture avec des expositions assez régulières de certains des artistes autistes. Ça se développe. Et puis on a un axe qui se développe là aujourd'hui de plus en plus. On essaie de multiplier les offres de sport. Ça c'est quelque chose qui nous soucie beaucoup, d'être aussi bien dans son corps après avoir bien mangé, c'est quand même assez important de bouger.
En club ordinaire ou sur des clubs adaptés
Alors on multiplie vraiment, c'est-à-dire qu'on adapte selon les capacités des personnes. On en a certains qui sont en club ordinaire, on en a certains qui sont aussi accompagnés intramuros sur de l'activité sportive le plus sweet possible et le plus adapté possible. Et puis on a beaucoup aussi de choses qui sont vraiment tournées uniquement sur le plaisir. C'est-à-dire, on n'est pas dans la performance, mais prendre son vélo pour aller sur la voie verte, faire des randonnées autour des lacs et le long des grèves de l'heure, c'est déjà des bonnes activités, des parties de foot, de badminton, là tous les midis, là à peu près là où on est, ça joue au badminton tous les midis, donc voilà, on développe ça, et puis au final, il y a aussi le soir, se mettre devant un match de foot, ça fait partie aussi.
C'est la vie.
C'est assez plaisant pour certains, en ce moment.
J'imagine, c'est le moment ou jamais. Sur le Home Pascal, Alain, c'est pareil, c'est des activités qui permettent d'aborder toutes ces choses.
On a sur les après-midi, effectivement, ce qu'on appelle des ateliers de généralisation, qui reprennent plein de domaines. Ça peut être la communication, c'est le sport également. Il y a besoin d'une dépense énergétique. On fait des jeux de coopération, on fait un partenariat avec l'EEC sur du ping-pong de façon ponctuelle. On essaye plein de pistes, on essaie de découvrir plein de pistes et des choses qui correspondent. On a fait il n'y a pas longtemps. Avec le rugby, une séance d'essai, on a été étonnés, les vidéos sont passionnantes, de les voir aller au contact alors qu'on n'imaginait pas qu'ils oseraient aller au contact de l'autre, et voire même se faire des passes, hein, puisque c'est quand même compliqué.
ça peut être compliqué.
Déjà, en milieu ordinaire, ça peut être compliqué de déjà, se faire des passes. Hein, donc,
déjà, donc, effectivement, on est sur les mêmes types de développement et des activités de bien-être. Et, voilà, en parallèle, il y a des rééducations, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais c'est bien sûr les mêmes objectifs.
Et c'est vrai que, comme le disait Alain tout à l'heure, on a la chance d'être en ville, ça aussi ça fait partie du continuum, on a la chance d'avoir une multiplicité de structures autour, on n'hésite pas à en sortir non plus, on fait pas mal d'équitation par exemple, donc c'est pas dans le centre-ville d'Évreux qu'on va le trouver, donc voilà, on jouit aussi d'être en centre-ville d'Évreux et de pouvoir se projeter assez rapidement à la campagne. Ça, c'est un grand atout pour pouvoir multiplier les possibilités qu'on va offrir.
Et puis les opportunités, j'imagine.
Les opportunités pour travailler l'autonomie, hein, ouais. Que ce soit d'aller acheter une baguette de pain, d'échanger la monnaie, dire bonjour, voilà, hein, toutes ces choses si importantes et si simples. Normalement.
Si simple et parfois si compliqué.
Et si compliqué parfois.
Mine de rien. Pour conclure, je me retourne vers Walter. Nous, pour avoir vécu des ateliers, sur du reportage ou voilà, fréquenté régulièrement, en tout cas de temps en temps et sur plusieurs années, ces groupes-là. Personnellement, moi, je trouve que ça fait partie des jeunes autistes, font partie des jeunes qui laissent pas indifférents et qui marquent fortement, notamment dans la réaction à la sensibilité, à la découverte ou autre chose. Votre regard sur cette question-là.
C'est sûr, ils ont une sensibilité qui est tellement évidente. C'est vraiment génial de travailler avec eux. On a vraiment des échanges dans le travail, mais des échanges humains aussi qui sont énormes. Et ce que j'adore vraiment, moi, avec ces enfants-là ou ces jeunes ados, c'est vrai. Du début à la fin, c'est vrai. Ils ont envie, ils font. Ils n'ont pas envie, ils ne font pas. Et ce qu'ils vont donner dans les matériaux qu'ils vont utiliser, dans les couleurs qu'ils vont prendre, on les retrouve complètement. Donc, par rapport à ce qu'ils aiment et par rapport à ce qu'ils ont envie de faire aussi, voilà, on développe par rapport à ça. Mais c'est super.
Très bien.
Super, ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Walter, merci. Intervenant art plastique sur le Home Pascal. Merci à Alain Digard, chef de service éducatif au Home Pascal, et Olivier Dubois, chef de service éducatif au Home Nicolas. Merci messieurs, d'être passés par nos micros. Monsieur Pignon, j'ai envie de vous proposer que vous nous envoyiez une autre captation que nous avons réalisée sur les ateliers du vendredi. Ethan.
Oui.
Quel âge as-tu ?
11 ans.
11 ans. Aujourd'hui, tu es venu participer à une activité musique.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Vous avez commencé par quoi au début ?
Chanter.
Vous avez chanté ? Tu as chanté quoi, toi ? C'était quoi les chansons ?
Piano.
Santiano. Vous avez joué d'un instrument au début, je crois.
Exactement.
Tu as joué donc de la sitar.
Oui.
Et tu as chanté.
C'est ça.
Est-ce que tu viens souvent jouer de la musique et chanter ?
Tous les vendredis.
Tous les vendredis ?
Oui.
Ensuite, vous venez de faire un jeu ?
Ah, je sais.
C'était quoi comme jeu ?
Ah, je sais, misita.
C'est la chaise musicale. Comment ça fonctionne, la chaise musicale ? C'est quoi la règle du jeu de la chaise musicale ? Comment ça marche ?
Il faut passer plus vite possible.
dès que la musique s'arrête.
Oui.
Donc tu connais Olélé, Santiano, est-ce que vous chantez d'autres chansons?
Oui, Cri des oiseaux, Ah oui, des lions est mort ce soir.
Le lion est mort ce soir. Eh bien merci beaucoup Ethan. Cet après-midi, tu es venu au Home Nicolas.
Venu au Nicolas.
Voilà, pour faire quoi?
On l'a chanté. Un sitar, un micro-ondes, un harpe, et un santiano. Une chaise musicale.
Une chaise musicale. Le jeu dont tu me parles, le jeu, c'était fallait se bander les yeux et fallait faire quoi?
On triche pas. Je triche pas.
Toi aussi, tu viens tous les vendredis?
Tous les vendredis.
Et donc, tous les vendredis, vous venez en jumpy, au Nicolas.
Au Nicolas.
Pour faire de la musique.
La musique.
Que tu préfères. Est-ce qu'il y a un instrument que tu aimes beaucoup?
Djembé.
Le djembé? Tu aimes beaucoup le djembé?
Pom, 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 pom.
Et tu en
pom,
joues?
Pom, pom, pom.
Et alors comment on y joue du djembé? Tu me faisais pom pom là, mais comment on
pom,
y joue?
Pom 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 pom.
Et donc tu joues sur quelle chanson? Sur quelle chanson tu fais du djembé?
Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molé mama kasi. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molé mama kasi. Molé mama, molé mama, molé mama, molé mama kasi. Molé mama, molé mama, molé mama, molé mama kasi.
Cuba, afro-cubisme en direct. Non, c'est pas ça. Ben c'est ce que j'ai dit, Mali Cuba. J'ai dit quoi ? Molly Macassé. C'était le titre que justement nous chantaient les jeunes du Homme Nicolas tout à l'heure. Alors je vous le refais bien, monsieur Pignon, parce que vous aimez quand nous sommes précis. Molly, Mali. Ah oui, d'ailleurs, bon, je recommence pour de la vraie. Mali Cuba, afro-cubisme, et nous sommes en direct du Homme Nicolas.
Boum, boum, boum.
Toujours en direct, en live et en public. Mais j'aime bien cette virgule. Ça a été réalisé par les jeunes là, sur l'atelier musique. On s'en servira sûrement en dehors de cette émission d'ailleurs, de cette virgule. Nous sommes donc toujours en direct, en live et en public du Home Nicolas à l'occasion des portes ouvertes. L'occasion pour nous tous de venir visiter la structure. Des visites de tous les lieux étaient organisées et continuent d'être organisées sur la journée. Des ateliers de valorisation, des réalisations faites par les jeunes et les enfants du Home, Home Pascal pour les enfants, Home Nicolas pour les jeunes. Et donc on a parlé beaucoup art, beaucoup culture artistique depuis le début de cette émission, mais nous ne pouvions rendre l'antenne sans recevoir Julien Lomier, éducateur sportif Home Pascal, et Audric Chanas, éducateur sportif à l'EAC Rugby. Bonjour à vous messieurs.
Bonjour.
Pour évoquer ces notions de sport, voilà. Il est important de pour tout le monde d'ailleurs de pratiquer du sport. Tout à l'heure, Olivier Dubois nous disait qu'il faisait des ateliers culinaires, des ateliers sur un tas de choses, mais le sport faisait partie aussi de l'équilibre des uns et des autres. Faire du sport, c'est bon pour tout le monde forcément. Pour les enfants et jeunes autistes du Home Pascal ou du Home Nicolas d'ailleurs, hein, c'est important aussi. Ça permet de toucher à quoi avec la particularité de l'autisme? Ça permet de toucher éducativement à quoi de faire du sport avec les jeunes et pour le coup du rugby en particulier?
Au niveau des prises en charge, c'est vrai que le sport c'est un très bon médiateur, mais pour plein de choses qu'on ne pense pas forcément au premier abord. Ça peut être la communication, ça peut être l'appartenance au groupe, notamment l'autisme, les particularités sensorielles font que différents sports, ça peut être vraiment un moyen de travailler certaines préhensions. Là, on a fait récemment un partenariat, enfin une initiation au rugby avec Audric, pour des enfants qui ont des difficultés à être, par exemple, touchés, le rapport à l'autre, tout ça qui est quand même très difficile. On a pu voir que ça a été très bluffant sur les exercices proposés par Audric. On a eu, les enfants n'avaient pas d'appréhension au contact, ils avaient envie de coopérer ensemble, ils étaient vraiment très, très contents et on ressort vraiment, vraiment satisfait de cette expérience.
J'ai l'impression qu'à travers le rugby, on touche toutes les difficultés quasiment liées à l'autisme, c'est-à-dire le contact, gérer aussi l'adversaire, mais gérer l'équipe, toutes ces choses-là. Audric, est-ce qu'on prépare une séance différemment quand on va travailler avec de jeunes autistes ?
Alors, initialement, on essaye de faire les mêmes choses qu'avec des enfants ordinaires qu'on accueille, notamment dans tout ce qui est initiation. Plus particulièrement connaissant un petit peu l'autisme et les problématiques qu'il peut y avoir au rapport à l'autre, on essaye de mettre en avant des activités justement sur les différents contacts, le contact avec le sol, avec le ballon, avec l'adversaire, donc le mettre en place aussi via plein de jeux pour que vraiment les enfants pratiquent sans s'en rendre compte en fait. Et c'est ça je pense aussi qui a pu surprendre mon collègue, c'est que les enfants sans s'en rendre compte aller au sol, arracher le ballon de la main de l'adversaire. Donc n'hésitez pas non
sans
plus.
Sans s'en rendre compte, c'est-à-dire que sans pris dans le jeu, a pu avoir cette appréhension d'aller au contact et, et le jeu primé en fait remporter sur sur l'aspect peut-être sensation, ou je sais pas d'ailleurs, mais en tout cas
Quotidien en fait c'est ça. Au quotidien on voit des réactions où ils sont en opposition par rapport à des gestes, par rapport à des attitudes sur un groupe, mais là dans le cadre du jeu, on les a trouvés vraiment très libérés et à aucune retenue. Enfin, ils étaient vraiment joués l'un contre l'autre et c'était ça qui était bluffant. Et ça nous a vraiment, vraiment surpris. Enfin, voilà.
Tout à l'heure, Alain Digard, que nous recevions juste avant, donc chef de service au Home Pascal, disait qu'ils font même des passes. Enfin, c'est un truc presque qui aurait pu paraître difficile à toucher, quoi, cette notion de faire des passes. Bah, ça s'est passé comment, du coup? Parce que c'est la relation à l'autre, hein, faire des passes.
Bah, c'est en fait, sur les différents ateliers, en fait, on a décortiqué chaque attitude liée au rugby. Donc, comment marquer un essai, comment manipuler un ballon, comment faire une passe, comment se déplacer aussi, avec des exercices de motricité sur la latéralité, à quoi ça sert de donner son ballon, pourquoi. Voilà, donc on a décortiqué en fait chaque atelier et c'est ce qui permet après, en situation de match par exemple, bah, que l'enfant puisse se rendre compte que si je suis pris, il va falloir que je libère mon ballon.
On a une question essentielle de Monsieur Pignon, qui est rugbyman dans l'âme lui aussi. Hein. Monsieur Pignon.
Oh, oui, ça fait un petit moment que je ne joue plus au rugby, mais j'y ai joué quand j'étais jeune. Est-ce que vous arrivez à appliquer la règle fondamentale du rugby qui est on n'a pas le droit de passer la balle à la main devant? Est-ce que c'est un truc qu'ils ont réussi à intégrer à un moment? Est-ce que ça a été difficile ou on n'en est pas encore là-dessus?
Alors j'ai fait un travail d'abord avec le CESAD sur 2 ans. Et là donc on parlait donc de l'accueil de l'IME. Sur une séance, c'est très compliqué, voilà, d'aborder cette notion en avant. Par contre, le travail que j'ai pu faire avec le CESAD l'année dernière, où on les a accueillis à l'ESC Rugby sur 6 séances au mois de juin, on a pu se rendre compte que sur les 2 dernières séances, effectivement, ils ont pu comprendre que y avait une règle qui était la règle de l'en avant et qu'il fallait voilà, se tourner et surtout être positionné. C'est ça aussi les repères dans l'espace sur lesquels on a beaucoup travaillé et qui permet voilà, par la suite de proposer un jeu avec des passes vers l'arrière. Voilà.
Il y a une notion dans le sport aussi qu'on ne retrouve pas sur d'autres types d'ateliers, c'est la notion de gagner. Très clairement, c'est une notion. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à une chaise musicale où la gagne devenait la Coupe du Monde, hein, pour ainsi dire. Hein. Alors, j'imagine quand on a produit un effort sur un terrain de sport, la gagne doit prendre encore une autre proportion, non? Comment ça se passe, la gagne? Et puis, du coup, quand on perd, quoi. Ouais. J'imagine que c'est une notion à aborder, non?
Bah justement, la frustration par rapport à ne pas finir premier, ou aussi la notion faire du sport, mais pas forcément que la compétition. Prendre plaisir, c'est le plus important. On essaye de leur inculquer ça. Enfin, voilà, on a beaucoup d'enfants dans les groupes de sport parce qu'il n'y a pas que le rugby. On a sensibilisé ces dernières années à de l'escalade, au ping-pong. On a fait un petit peu, on a fait de l'athlétisme, on a fait différents sports. Mais c'est vrai de ne pas arriver le premier. On le voit au centre. Certains enfants ne le supportent pas. Ça peut entraîner des troubles du comportement. Le fait de finir deuxième, ça peut provoquer ça. Et du coup, mais dans le sport, enfin. Pour l'instant, je touche du bois. Ça fait 5 ans que du coup, je suis sur ces ateliers-là de sport. On a rarement eu des réactions excessives dues à l'échec, dues au fait de ne pas y arriver ou de finir deuxième. Et je pense que le plaisir prédomine vraiment. Et la découverte font que les enfants jouent le jeu. Et c'est un cadre différent de l'IME, de ce qui est proposé. Et on a des comportements différents. Et c'est ça qui est intéressant. Et après, le but, c'est aussi de les généraliser dans le quotidien. Mais voilà, pour l'instant, la frustration est assez bien gérée de manière générale.
C'est un truc que vous abordez, vous,
oui,
Audric, la frustration et la gagne.
Sur les ateliers de motricité, en fait, justement, où on essaye de favoriser le contact au sol à ce moment-là, et afin que les enfants puissent ne pas se rendre compte d'aller au sol et de la frustration, pas la frustration, mais de la peur qu'ils peuvent avoir peut-être de ce contact. Bah, la notion de gagne, voilà, de compétition. Leur fait totalement oublier cette dimension et du coup ils sont plus concentrés sur arriver en premier, faire le meilleur temps et du coup ils font des passages au sol sans s'en rendre compte et voilà.
Il y a toute une notion de finalement le plaisir, l'envie fait oublier le reste. Est-ce que le fait de changer de lieu aussi, parce que ça se pratique sur un terrain de sport du coup, pas dans les locaux habituels, est-ce que changer de lieu c'est se mettre déjà dans une autre attitude, dans un autre fonctionnement?
Oui, je pense, parce que de toute façon, par l'autisme en général, de toute façon, un lieu égale un comportement. Et c'est ça qui est difficile d'ailleurs dans les prises en charge, c'est la généralisation des acquis. Donc effectivement, de changer de contexte, déjà, les enfants n'ont pas le même repère, donc vont adopter aussi des comportements différents de ce qu'on peut observer à la maison, à l'IME. Donc oui, effectivement, juste de changer de lieu, ça peut aussi entraîner de nouveaux comportements.
Et en tout cas, d'arriver vierge face à un
c'est
comportement à adopter... sur un terrain de sport, la première fois que j'y vais, je connais pas le lieu, je connais pas le truc, donc j'attends les informations, les consignes de l'encadrant, quoi.
C'est ça.
Il y a eu des matchs de réaliser avec des enjeux, non, des enjeux de gagne ou de perte, quoi, mais il y a eu des matchs d'équipe qui ont été réalisés.
À chaque fin de séance, en fait, c'est un peu, même dans le milieu, nous traditionnellement à l'école de rugby, c'est ce qui termine une séance, c'est le match, hein, c'est pour ça aussi que les enfants viennent, parce que c'est le jeu hein, qui prime. Et du coup, c'est vrai qu'au cours de ces séances, on termine aussi toujours par une séance de match. Où au fur et à mesure on essaye petit à petit d'incorporer des règles. Voilà, donc au début ça va être brouillon et au fur et à mesure on essaye voilà, la règle de l'en avant, la règle de la touche, la règle du tenu. Voilà. Donc quand je suis au sol, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai le droit de garder le ballon au sol?
Et le fameux hors-jeu? On arrive ça.
Ah là,
parce qu'au foot déjà c'est compliqué pour les novices quoi. Mais alors au rugby, ceux qui connaissent pas les règles ou qui découvrent, le hors-jeu au rugby, à part au pied où c'est assez simple, mais sur les zones de regroupement etc, ça doit être compliqué. Pardon, je m'égare, hein, on parle un peu trop technique, j'y sais, je vous laisse reprendre.
Non mais j'imagine oui qu'il y a des simplifications, mais même pour moi, hein, si on me faisait jouer à moi au rugby alors qu'a priori je ne suis pas autiste, il faudrait sûrement épurer quelques règles afin que je puisse prendre du plaisir dès le début de toute façon. Non mais c'est la réalité aussi, au bout d'un moment on peut pas, et là pour le coup aussi bien au milieu ordinaire qu'en milieu avec des autistes, de toute façon j'imagine qu'il y a une adaptation et un apprentissage échelonné, gradué, j'imagine.
Voilà. Donc, ouais.
Voilà, Monsieur Pignon, pourquoi voulez-vous faire des hors-jeux à tout le monde au rugby? Non, mais c'est vraiment une idée fixe. Hein.
Moi, si ça dépendait que de moi, il n'y aurait pas du tout de règles. Voilà, moi, je suis pour l'anarchie, y compris dans le sport, pour donner le meilleur de moi-même. Mais c'est une considération très personnelle.
Très bien, bah merci de la donner tout de même. En tout cas, merci beaucoup à vous, Julien Lomier, éducateur spécialisé Home Pascal, et à Audric Chanas, éducateur sportif à l'EAC Rugby. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé avec nous le sport avec ces jeunes autistes. Nous allons nous écouter tout de suite une captation qui a été réalisée durant la séance de musique. Elle sera suivie directement d'un échange réalisé avec les jeunes et elle sera complétée par la deuxième captation. Voyons, mes deux captations, l'échange entre deux. Vous avez l'impression que je suis en train de vous parler à vous, auditeurs, mais non, c'est un message subliminal pour le réalisateur. Cela dit, on vous annonce quand même ce que vous allez écouter.
Cago, t'es paumé tout à coup, t'es paumé en boîte de loup, t'es mangé à la fraise. Un petit cago, t'es paumé ta fraise. Jette à la fraise, après t'es paumé à la cour, et après t'es dormi.
Benjamin,
Ethan, Mamadou,
Arnaud, Ethan, Evan et Pierre-François.
Très bien,
et
c'est
toujours Thibaut avec... Cuny.
Tu sais, Bayoubo, ouais. Baba Masik. Djembe.
Et le djembe, tu joues du djembe toi,
je joue,
Arnaud.
Je joue au djembe, ouais.
Tu joues du djembé. Sur quelle musique tu joues du djembé?
Des musiques, ouais.
Sur laquelle chanson?
Chanson. Abro.
Sur l'arbre.
Sarabo.
Ah, c'est un conte. C'est une histoire.
Une histoire, ouais.
Très bien. J'ai vu qu'aujourd'hui, tu jouais du djembé sur une chanson aussi.
Djembé soso, ouais.
Sur quelle chanson?
Des soso.
Sur voilà. Quelle chanson tu jouais?
Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Bon, yiba, fantasy. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Bon, yiba, fantasy. Bon, yeah, mama. Bon, yeah, mama. Boya mama, boya fantasy. Boya mama, boya mama, boya mama, boya fantasy.
Et alors sur cette chanson-là, tu joues du djembé. Comment on fait avec le djembé?
Le djembé.
Le djembé.
Tout bou, pou pou pou, 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 pou pou pou.
Alors ça, c'est un rythme.
Je rigole.
C'est le rythme.
Je rigole.
Et tu rigoles?
Je rigole.
Bah oui, on peut rire. Alors, vous avez joué à la chaise musicale aussi.
Musica.
Je crois que tu as gagné.
J'ai gagné, voilà. Ouais.
Alors comment tu fais pour gagner tout le temps?
Musica. Je suis content, ouais. Ouais, c'est musica. Et Pierre Thibaut, Bazaba, Aldo, Yendo, Tudor, Numininé, Valatara, Vendredi, 8 avril, TVC.
Ça, c'est le jour de la musique.
La musique.
Qui c'est qui fait de la musique avec vous?
Aldo.
Arnaud.
Ingrid et Sandrine.
Ingrid et Sandrine.
Oui, quand même.
Qui font de la musique avec vous.
Mais misez vous.
Attrapez les tous ce Pokémon. N'est qu'un.
Voilà, c'était des extraits sonores qui avaient été captés au mois d'avril lors d'une séance de musique qui avait été menée avec Fabien, Pascal, Ingrid pour les éducateurs et Sandrine, l'intervenante musicale. Voilà, toutes ces petites pastilles ont illustré cette émission. Nous étions aujourd'hui en direct, en live et en public du Home Nicolas à l'occasion des portes ouvertes et comme le soulignait l'amideuse également, une journée de sensibilisation sur cet autisme finalement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est encore ouvert. Dans peu de temps il y aura le concert des Kundivi Orchestra, ça on l'a demandé en début d'émission, on n'a pas demandé le concert en début d'émission, on a demandé des nouvelles du Kundivi Orchestra en début d'émission et on nous a dit qu'il jouait aux alentours de 16h. Cette émission a été menée de main de maître à la réalisation par notre ami Pignon, c'est ça, voilà, faites une belle révérence, c'est magnifique. À la logistique, à l'organisation et au portable, très bien, au portable, allez-y. Notre ami Deus, bien. Ah, communication, bah vous montrez votre portable, moi je croyais que c'était à votre portable, mais non, oui, à la communication, très bien, c'était l'amideuse. Et puis voilà, cette émission vous pourrez la retrouver en podcast sur le site de Principe Actif. Vous la retrouverez également sur le Facebook de Principe Actif à côté de la photo du jour. Et puis voilà, nous on va profiter de cette fin de porte ouverte ensoleillée au Home Nicolas. On vous souhaite une bonne fin de journée.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif. 102.4 FM.